En Belgique, l'association Engage vient en aide aux journalistes exilés. Dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale de la ville de Bruxelles, Engage a organisé une conférence témoignage avec Fatimé Toussaou, journaliste de la télévision mauritanienne, ancienne militante anti-esclavagiste et des violences imposées aux enfants et aux femmes. Omema Kher, journaliste à TV Palestine, correspondante pour l'agence Ramatan et Al Jazeera, active dans la défense des droits des femmes. Valérie Mucho, journaliste au Burundi, présentateur de journal télévisé. Le débat est introduit par Anthony Bélanger, cofondateur d'Engage et secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Claire Chevrier anime le débat, elle est cofondatrice de l'association Engage. Vous êtes à l'IEX le jeudi 8 octobre 2020.
Bonsoir à tous. Donc je suis Anthony Bélanger, membre fondateur d'Engage. Je représente ici le président qui est empêché, qui est à l'étranger, et notre secrétaire, donc le président Jean-François Dumont, et notre secrétaire, donc André Linard, qui est aussi empêché ce soir. Pour ma part, je suis un des membres fondateurs, comme Claire Chevrier d'ailleurs, de l'association Engage. Et je suis aussi, et ça c'est ma profession, le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. La FIJ, donc, qui est dont le siège est à Bruxelles, depuis longtemps maintenant, depuis 1952, et qui est la plus grande organisation de journalistes dans le monde, puisqu'on représente 600 000 personnes. Donc j'ai l'honneur de la diriger avec du personnel ici, mais aussi dans les différentes régions du monde, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud et un petit peu partout dans le monde. Voilà. Je vais commencer par remercier, bien entendu, l'IEX, qui nous accueille pour cette exposition, qui est dans le cadre de cette quinzaine, et donc qui nous accueille ce soir, qui nous accueille en bas, vous avez vu l'exposition. Je vous invite à aller voir les photos, des photos prises par notre collègue Frédéric Moreau de Bellin, photographe de presse, photographe artiste, et il y a vraiment des belles choses, il y a des belles rencontres, des beaux portraits, et puis des textes qui valent le détour. Donc vous en connaîtrez un peu plus sur nos collègues. Et puis je remercie également, bien entendu, la ville de Bruxelles qui est présente ici, le service Solidarité Internationale notamment, qui a beaucoup œuvré pour que nous soyons présents dans cette quinzaine de la solidarité. On n'est pas les seuls, évidemment, à intervenir au nom d'Engage. Il y a plusieurs organisations, plusieurs associations qui exposent et qui font part de leur travail dans le cadre de cette quinzaine, et tout est détaillé ici. Engage, rapidement, pour les personnes qui ne connaissent pas l'association, c'est une association qui a été créée en début 2019, fin 2018, de journalistes, d'anciens journalistes, donc avec des membres fondateurs. Je parlais tout à l'heure de la Fédération internationale de journalistes, que je représente, mais aussi l'ULB, la VUB, l'Association des journalistes professionnels, donc qui est l'organisme officiel, qui est notre affilié belge pour la partie francophone, mais bien entendu aussi des journalistes indépendants. Il y a une Martine qui est journaliste indépendante, Claire qui est chercheur, et puis le CIRE, la Ligue des droits humains, Amnesty International, voilà, toutes les grandes organisations nationales ou internationales qui œuvrent pour les droits humains de façon globale, sont dans Engage. Alors Engage, c'est il y a un mot qui pourrait résumer Engage et qui pourrait faire le lien avec ce qu'est la quinzaine aujourd'hui, c'est la solidarité internationale. On peut imaginer ce que nos collègues ici présents ont pu vivre depuis leur pays d'origine, qu'ils ont quitté, parce qu'ils ont été obligés de le quitter, il ne faut jamais oublier ça. On peut imaginer ce qu'ils ont pu vivre, mais on ne peut pas savoir ce qu'ils ont pu vivre. Et il n'y a qu'en discutant avec eux qu'on peut éventuellement comprendre ce qui s'est passé. Que ce soit pour la bande de Gaza, en Palestine, que ce soit pour la Mauritanie, ou que ce soit pour le Burundi. Vous connaissez bien entendu, je ne vais pas vous faire, même si c'est des endroits où je suis allé à titre personnel, et où on a des affiliés, où on a des journalistes qui travaillent souvent dans des conditions très compliquées, Là, c'est le dans le meilleur des cas, dans des conditions très difficiles dans ces pays. Le Burundi, bien entendu, mais la Mauritanie, qui est probablement le moins connu dans ces trois pays. Et puis la Palestine, on n'en parle pas. Quand on est journaliste en Palestine et surtout en bande de Gaza, dans la bande de Gaza, on a d'autres collègues aussi qui sont présents ici. On est soit menacé de mort si on n'est pas dans la ligne du régime et du Hamas, notamment à Gaza. En Mauritanie, c'est un autre sujet, puisque la Mauritanie n'est pas forcément le pays qui est mis en avant, et pas assez mis en avant, hein. Et d'ailleurs, on devrait peut-être plus le faire pour les pays où les journalistes, et les femmes en particulier, sont vraiment, vraiment en danger quand elles revendiquent tout simplement leur droit d'être indépendante, leur droit d'être une femme et d'être complètement, je dirais, une personne à part entière. Et Fatimatou pourra nous en parler tout à l'heure, et je suis persuadé qu'elle nous donnera des détails de la même façon que Oumeya pour la Palestine. Quant au Burundi, Valérie a été directement menacé, privé de travail, et il a été, pas invité, c'est lui qui a été obligé de partir et donc de quitter son pays. Donc Engage, on est là pour les aider, pour les soutenir, pour leur proposer des formations. Au départ, on imaginait que, comme la Maison des journalistes à Paris, nos collègues exilés pourraient avoir besoin d'un logement, par exemple. Ce n'est pas une demande. Donc on s'est adapté avec l'association et on s'adapte aux collègues qui sont là. Aujourd'hui, on a à peu près 60, 70 personnes qu'on suit, pas au quotidien, mais en tout cas très régulièrement. Et on essaie de faire de notre mieux avec nos petits moyens, même si aujourd'hui on est aidé de plus en plus par les autorités et les services communaux ou les organisations telles l'IEX aujourd'hui, pour avoir plus de moyens pour nous faire connaître en tant qu'association, pour les faire connaître eux, pour qu'ils soient, qui à un moment donné, et ça c'est le cas de quelques-uns ici, puissent reprendre pied ici dans un pays qu'ils ont choisi, dans une langue qu'ils sont en train d'apprendre pour certains d'entre eux, soit le flamand ou le français, pour qu'ils enfin reprennent goût à retenir un micro, à tenir une caméra ou un stylo pour être journaliste. C'est un grand pas, pour discuter très régulièrement avec eux, c'est des vrais parcours de vie, et cette solidarité-là n'existe qu'en, évidemment, que quand on est tous là, nous, quand on ne craint rien avec nos passeports européens, belges, anglais, français, ou même américains. Mais eux, non, c'est pas leur cas. Eux, il y a toujours cette crainte de se promener, même, j'imagine, à Bruxelles, il y a toujours cette crainte, parce qu'ils n'ont pas encore ces papiers, qui leur permettra, à un moment donné, de vivre une nouvelle vie et de se lancer dans une nouvelle vie, eux et leur famille. Voilà. Une fois encore, merci à tous d'être ici. Et je suis certain que vous aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup sur nos trois collègues ici. Deux femmes, un homme. Hein, donc, vous voyez qu'au niveau parité, on n'a pas pu le faire, mais on a quand même fait un équilibre. Et ça tiendra vraiment à cœur à Fatimatou. Mais en attendant, merci encore. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et Engage, continuez de vivre au travers de nos collègues, avant tout au travers de nos collègues. Nous, on est juste là pour soutenir. Merci à vous.
Bonjour. Du coup, je ne vais pas présenter plus dans le détail chacun de nos intervenants, puisque tu l'as déjà bien assez fait, et puis qu'il vaut mieux quand même favoriser leurs propos à eux. C'est quand même le plus important. Donc, on va commencer tout de suite avec Valérie. Tu veux bien ?
Bonsoir à tous. Je m'appelle Valérie Mucho, je suis journaliste burundais. Et je suis journaliste depuis 2003. Et je suis ici en Belgique depuis fin 2018, mais j'ai quitté mon pays. Je me suis exilé à l'étranger, dans un pays voisin qui est le Rwanda, en 2015. C'était suite à une situation très compliquée, une crise sociopolitique au Burundi qui a été causée par le troisième mandat du président de l'époque, Pierre Nkurunziza. Il a brigué un troisième mandat, il y a des manifestations. Et voilà, bon, tout ce qui a suivi, je vais vous le dire. Alors, j'ai commencé ma carrière à la Radio-Télévision Nationale du Burundi, comme présentateur du JT de 20h en français. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes, parce que la télévision avait viré vers un organe du parti au pouvoir. Ce qui faisait que certains sujets politiques, certains reportages politiques, s'ils ne falsifiaient pas les faits, ils voulaient qu'on se taise. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes. Ils m'ont taxé d'opposant, de ne pas soutenir le parti au pouvoir. Et de présentateur du JT, je me suis retrouvé à lire les communiqués et les annonces à la Radio Nationale. Et c'est comme ça qu'ils m'ont puni. C'était jusqu'en 2014, j'ai dû quitter. J'ai dit au revoir, je pars, je ne peux pas rester là. Et donc cette connotation d'opposant est restée collée dans mon dos. Entre-temps, mon épouse, qui est aussi journaliste, travaillait pour un média privé qui s'appelle Radio Isanganiro. Et c'est l'un des médias indépendants qui ont eu des problèmes avec, le pouvoir en place. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit les manifestations contre la candidature au troisième mandat du président de l'époque, que les médias indépendants, ils étaient un peu trop conciliants avec les opposants, avec les manifestants. Alors, ils ont brûlé les médias, ils ont préféré brûler les médias. C'était au lendemain d'un coup d'État manqué qui a eu lieu le 13 mai 2015. Et ils ont brûlé 5 médias indépendants. Dont une télévision, et les manifestants, eux, ils ont brûlé un autre média qui était pro-pouvoir, un média indépendant. Alors, mon épouse a dû fuir le pays, je l'ai amenée au Rwanda voisin, elle a fui avec nos 2 enfants, et moi, je suis resté au pays pour voir ce qui se passait, et là, c'est là où la milice, Imbonerakure, les miliciens du parti au pouvoir ont commencé à circuler un peu autour de ma maison pour se connaître mes allées et venues, tout ça. J'ai dit, mais il faut que j'aille un peu, je mette un peu à l'abri pour voir ce qui va se passer. Et je suis allé au Rwanda rejoindre mon épouse. Et là, au Rwanda, en 2015, nous avons créé une radio qui s'appelle Radio Inzamba Agathe Kakaawe. Inzamba, ça veut dire le clairon. Le clairon, chez nous, à l'époque de la monarchie, c'était celui qui annonçait une grande nouvelle. Et voilà, nous avons créé la radio Inzamba Agathe Kakaawe. Et nous, les journalistes des médias indépendants, les journalistes aussi de la radio-télévision nationale qui avait fui, et aussi d'autres journalistes indépendants. Alors, quand nous sommes arrivés au Rwanda, bien sûr, vous vous rendez compte que vous arrivez dans un pays, vous voulez créer une radio, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas d'ordinateur pour le montage, vous n'avez pas de studio, vous n'avez pas d'émetteur. Ben, vous dites, mais on est en train de rêver là, comment ça va se passer? Mais petit à petit, nous nous sommes dit, mais le téléphone, il fait des merveilles. On peut télécharger une application qui va enregistrer les conversations. Nous sommes partis avec nos carnets d'adresses, nous sommes restés avec tous nos informateurs qui éparpillés sur toutes les collines du pays, qui nous donnaient des informations. Donc nous nous sommes dit, bon, voilà, on va créer une radio en ligne. Et elle a commencé à émettre. Nous avons commencé à envoyer nos reportages, nos émissions à travers WhatsApp sur les réseaux sociaux. On a commencé par WhatsApp, après c'était Twitter, maintenant il y a YouTube. Vous pouvez suivre ça en direct ou sur, surtout sur YouTube. Et voilà, c'est comme ça que nous avons commencé. Mais ça a été très, très dur parce qu'on n'avait pas de financement. Quand vous quittez votre pays, que vous partez en exil, vous êtes sans emploi. Il faut nourrir la famille, il faut nourrir les enfants. Et nous avons passé une année très, très difficile parce qu'on a passé une année à travailler sans aucun financement. Pourquoi ? Parce que c'était inhérent au climat de la région des Grands Lacs, dans lequel appartient le Burundi. Pour ceux qui suivent l'actualité, surtout dans la région des Grands Lacs, surtout au Congo, au Rwanda, surtout, vous avez entendu de la radio Mille Collines, la tristement célèbre radio Mille Collines, celle qui a attisé le feu, qui a fait que, qui a instrumentalisé l'ethnicisme au Rwanda et qui a... c'est à travers la radio Mille Collines, surtout le micro de la radio Mille Collines, que les journalistes attisaient la haine jusqu'au génocide de 1994. Alors, ceux qui nous finançaient quand on était au Burundi, c'est surtout des gouvernements européens, parce que les médias indépendants faisaient du bon travail. Ils se sont dit, mais on risque de financer des gares, qui ont fui leur pays, qui ont une dent contre le pouvoir en place et qui vont peut-être diffuser des informations, des émissions qui attisent la haine. Donc, il ne faut pas qu'un jour, le monde nous accuse d'avoir financé un média de la haine. Ils ont dit, attendons voir. Le test a passé une année. Ils nous ont testé pendant une année. Ils ont vu qu'on faisait du bon travail parce que le gros du travail des médias en exil, les médias burundais en exil, c'est d'essayer de déconstruire le discours de la haine diffusé par le régime en place. C'est tout ce qu'ils font en majorité à longueur de journée, parce que c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des discours ethnicistes, il y a des discours de haine, de division, tout ça. Et les médias en exil se sont dit, on avait fait du bon travail quand on était au pays, vu le contexte après la guerre civile, après les négociations entre le gouvernement et les groupes armés jusqu'en 2003, où le dernier groupe armé avait signé un cessez-le-feu avec le gouvernement, et quand les rébellions sont rentrées pour être intégrées dans l'armée et la police. Les journalistes, surtout des médias indépendants, ont fait un travail vraiment très spectaculaire de réconcilier les esprits, amener les Burundais au dialogue, parce que entre Hutu et Tutsi, il y avait une certaine faille, il y avait une scission terrible qui avait amené plusieurs conflits interethniques dans le pays qui avaient coûté la vie à 300 000 Burundais durant la guerre civile de 1993 à 2003. Ils se sont dit, maintenant que nous sommes en exil, on ne va pas se dire, écoutez, nous avons une dent contre le régime, donc on va tout faire pour le faire tomber ou bien pour attiser la haine contre ce régime. C'est contre-productif. Et après une année, on a pu avoir quelques financements. Là, nous avons redémarré en fait une nouvelle vie cette fois-ci, parce que c'était très difficile quand tu dois nourrir tes enfants et qui te dit « tu peux m'acheter un beignet ?» Tu dis « j'ai pas d'argent ». Ça fait mal, alors que le gamin il te dit « mais toi et maman, à chaque fois, vous nous dites que vous allez au travail, mais... » Un beignet, c'est 50 francs. C'est combien? C'est peut-être 10 centimes. 10 centimes d'euros. Et tu dis que tu n'as pas l'argent. Et le gamin, il te dit, mais papa, tu dis que tu travailles, tu ne peux pas m'acheter un beignet. C'est méchant, ça. Ça fait mal, parfois. Tu te retournes et tu pleures parce que tu n'as pas la solution. Et voilà, donc après une année, de bons et loyaux services, c'est comme ça que je peux dire. On a pu avoir des financements et c'est pourquoi maintenant ces médias en exil peuvent diffuser sur des canaux comme sur YouTube, surtout sur les réseaux sociaux. Et comme ça, ces journalistes n'ont pas pu se dire, écoutez, il y a la passion, mais je dois nourrir ma famille, donc je laisse tomber ces trucs pour chercher du travail, peut-être aller chercher du travail, être serveur dans un bar quelque part à Kigali. Et voilà, nous avons pu continuer notre métier. Et après, nous avons créé une association à JBE, à l'association des journalistes burundais en exil, dont je suis le porte-parole, et pour essayer justement d'encadrer ces journalistes en exil, pour pas qu'ils tombent dans le piège de l'ethnicisme, aussi de la division, de la haine ethnique, tout ça, du discours de haine. Et voilà, c'est comme ça que nous avons pu survivre. Jusqu'à maintenant, en fait, la JBE, notre association, regroupe une centaine de journalistes et d'auxiliaires qui se sont exilés depuis 2015. Alors, quand je suis arrivé ici, bien sûr, j'ai tout de suite entendu parler d'Engage. Claire et les autres nous ont bien accueillis. C'est bien de pouvoir être accueillis par des personnes qui sont déjà ancrées ici, qui ont une assise ici, qui peuvent vous guider, te prendre la main, tu dis, tu m'as dit que tu as besoin de ça, que tu as un tel projet, viens, je vais te montrer, nous allons toquer à telle porte. Et maintenant, c'est bien de se sentir soutenu. Et voilà, nous sommes ici parce que Engage, justement, fait de bonnes œuvres. Et voilà, peut-être que d'autres précisions viendront au fil des questions. Merci.
Merci Valérie. Omema va prendre la parole en anglais.
Good evening again. Since the 22nd of October 2018, I have been recognized and treated as the file number which I hold at the CIGERA. But I'm much more than that number. I'm a very proud human being and an independent journalist who had a wonderful life full of love and respect from family, friends, and the majority of my community. A life full of success and achievements. A life full of struggles and battles against injustice, oppression, and repression of brute authorities in the Gaza Strip. How did it start? In the year 2007, my everlasting and never-ending battle with Hamas erupted simply because I believed that I have the luxury to say no to cooperating with them or working for them. Anyhow, I said no, and with that big no, I became their enemy. Hamas people used the dirtiest ways to stop me from working as a journalist. They threatened me, insulted me, they have beaten and tortured me. And every single journalist, political, feminist activity I have been involved in. When Hamas took over the Palestinian TV premises in the Gaza Strip, after they took over the whole Gaza Strip, they confiscated all my archive, my programs, my live talk shows, my documentaries, hundreds of hours in training, in working in the international relations, the European and Arabic file, the workshops, and the finished project to develop the Palestinian TV and turning it from analog to digital. Then again, when Hamas took over Ramatan News Agency offices, all my work, especially for Al Jazeera children, disappeared. They have even turned some of my family members against me. Therefore, I had to wear al hijab to protect myself. I'm going to mention just a few examples of my work and the problems I faced because of it. In the year 2015, a women conference called Raise the Women's Voice to End the Separation and Achieve the Reconciliation between Fatah and Hamas. Participating in workshops in Ramallah with the BBC, training many young women journalists, participating in many workshops concerning the UN Resolution 1325 concerning the rights of women against violence. All those activities and even much more brought me lots of problems, assaults, and fights with Hamas. The year 2016, writing on the website, the news website, Dunya al-Watan again, opened the doors of Hamas hell, resulting in stopping me from writing and silencing my voice again. The year 2017, I realized that it's my destiny to keep fighting to regain my life and my rights to speak up, to wear what I want, to be the independent journalist that I have always been, to live the life that I always wanted. So I took off my hijab and went back to my life. This provoked Hamas to the extent of accusing me of being an apostate from Islam and an infidel. I also found out that Hamas militants worked in a piece of land located behind my home in the border area between the Gaza Strip and Israel. I inherited that piece of land and the house from my father. Their military work in that land endangered my house, my family, and my life. Did I accept it? Have I kept my mouth shut? Of course not. I fought, quarreled, and struggled with them every time they entered that land. 2018. Hamas militant broke into my house, beat me, stabbed my leg with a screwdriver, tortured me as my hands were handcuffed. They put a gun against my forehead, and they pulled the trigger. That sound of pulling the trigger, still ticking in my head, facing death, forced me to escape. Like most refugees, I crossed borders on foot for days, nights, and sometimes weeks without food or water. It was a death journey, indeed. For years, I have kept my battles with Hamas inside me and managed to hide them from everyone. But Hamas has never succeeded in changing my thoughts, my beliefs, my values, or my principles. Nowadays, I am waiting for a decision from Sijra. It will be hopefully positive, which would grant me protection, safety, and a life to start practicing journalism again. Or, God forbid, the reply could be negative, which would sound exactly like pulling the trigger of a pistol aiming at my forehead. Thank you for giving me this opportunity to speak. Freedom of speech is a great, true gift. Treasure it. Thank you.
Bonsoir à tous. Ça va, le micro ? Excusez-moi, je vais devoir garder le masque. En fait, je travaille dans une maison de repos. Donc, pour la sécurité de nos résidents, je préfère le garder. Je suis vraiment désolée.
Pas de problème.
Voilà, mon nom est Sow Fatimetou. Je suis mauritanienne. Je suis venue en Belgique en août 2018. Et 6 mois après, j'ai été reconnue réfugiée. Donc, journaliste, noire, femme, en Mauritanie, ça c'est le pire cocktail d'après les islamistes, d'après mes confrères hommes, que la Mauritanie puisse avoir. Je défends les droits de l'homme depuis belle lurette, surtout les droits des fillettes, puisqu'en Mauritanie, beaucoup de fillettes, malheureusement, sont excisées, disons 90% sont excisées avant l'âge de 5 ans. Donc, 72% des fillettes en Mauritanie sont excisées. À part ça, j'ai en fait été arrêtée en 2013, puisque j'ai approché un leader anti-esclavagiste en Mauritanie. Et on m'a demandé de quitter le territoire, puisqu'à l'époque, je travaillais pour une chaîne panafricaine basée au Sénégal. Donc, après quelques années au Sénégal, je me suis dit, Fatimetou, il faut que tu rentres. Tu ne peux pas rester comme ça, hors de la Mauritanie, loin de ta famille. Il faut que tu continues à te battre. Et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai 4 enfants. Quand je suis rentrée, le père de ma fille, Sarah, m'a approchée. Il m'a dit qu'il était temps que Sarah soit excisée, puisqu'elle avait 9 ans. J'ai dit non. Donc j'ai porté plainte et pendant 1 an, c'était le tribunal, la maison. Je travaillais même plus, elle ne partait plus à l'école parce que j'avais peur en fait qu'on me l'arrache. Puisqu'à 5 ans, à l'âge de 5 ans, on l'avait déjà mariée, c'était, l'attachement c'était fini. Donc 9 ans, le gavage, après l'excision et à 11 ans, c'était les noces en fait. Le gavage consistait en fait à alimenter les jeunes filles pour qu'elles puissent grossir, avoir la corpulence d'une femme adulte. Puisqu'en Mauritanie, malheureusement, plus une femme est grosse, plus elle a de la valeur. Parce qu'on nous traite en fait comme du bétail. Les femmes mauritaniennes sont comme des vaches, en fait, excusez-moi du terme. Donc je me suis battue, comme je vous l'ai dit tantôt, pendant 1 an. Mais malheureusement, on m'a dit non. Que Sarah devrait suivre les traces de toutes les jeunes filles en Mauritanie. Donc, je devrais la remettre à son père. J'ai reçu, malheureusement, l'injonction du tribunal en vendredi. J'ai dû quitter le lendemain sans rien. Je suis partie. Donc, heureusement, pour moi, dans le cadre de mon travail, j'avais tout le temps un visa. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a quitté la Mauritanie en août 2018 pour pouvoir protéger, mettre à l'abri les filles. Heureusement qu'aujourd'hui, on a nos papiers. Moi, je compte vraiment retourner d'ici 2 ans, voire 3 ans, parce que si toutes les femmes en Mauritanie s'exilent pour protéger leurs enfants, pour protéger leur vie, que va devenir notre pays ? Moi, je préfère mourir et demain que l'opinion internationale s'intéresse à ce pays pour pouvoir sauver d'autres filles. Oui, je suis prête à le faire et j'en parle donc à mes enfants chaque jour. Donc, je les apprête, je ne sais pas, peut-être que si je rentre, je mourrai en prison. Donc, je les apprête demain à me voir partir, en fait. Voilà, pour sauver d'autres filles en Mauritanie. Je suis prête, oui, à mourir, à me battre jusqu'à la fin. Voilà.
Donc voilà, vous avez eu trois présentations. Effectivement, c'est une bonne idée d'avoir plus de temps pour des questions-réponses. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui.
Hi, Umayman. My name is Nafiz al-Wahidi. I'm originally from Gaza. I work for Ramadan. I know you personally. It's a great opportunity. I work right now as a journalist for France News 7 and Brussels Morning. Also, I work for the Red Cross of Belgium. It's great to see you here again. I'm sure that you don't remember me because it's a long, long time ago.
No, I'm not that old. Don't say that.
This is not what I mean. So anyway.
Donc là, juste pour rassembler la question, c'est quelle est la différence entre le fait d'être une journaliste à Gaza et d'être aujourd'hui ici, d'essayer de devenir une activiste par rapport à la liberté d'expression et comment est-ce que ça s'articule?
It's like a dream coming true for me. But at the same time, there is a void that I wish I will be able to fill it one day, which is being able to deliver the voices of all the Palestinians in the Gaza Strip for all of everyone in the whole world. And also, I have a goal now, which I feel is a deep desire and a duty at the same time as a journalist, as a Palestinian also, is to let everyone know exactly what is happening in the Gaza Strip. Because I've seen with my own eyes that I'm here. And I've been in contact with so many people here. Europeans, they are very good people, but they don't know what's going on there. It's our duty to deliver the exact truth. I hope this answers you.
Thank you so much.
You're welcome. Okay. Let's say that I have been so lucky that I was not targeted by the Israelis when I was in the Gaza Strip, because anyone being in the Gaza Strip is a target to the Israelis, especially the journalists. So I was lucky. And saying that all my problems is because of Hamas, it's right, but not 100% or not absolutely right, because the situation in the Gaza Strip and the fact that Hamas took over it, because it was occupied, and because the Israelis, when they assumingly said that it was a bilateral withdrawal, no, they didn't withdraw from the Gaza Strip. They redeployed their forces and left a zigzag way for Hamas to sneak in. So somehow, you can say that it was something agreed upon the two, Hamas and the Israelis. Hamas say that we are resistant. Okay, they are, but not fully. They are resistant when this serves their interest. So let's say that devils gather for interest. But thank God I was lucky. Thank you.
Ça va?
Donc, de ma part, j'aimerais, disons, avoir des idées comment pouvoir combattre l'esclavage en Mauritanie, l'excision en Mauritanie, tout ce qui se passe, pour pouvoir aider ces fillettes, pour leur donner une seconde chance, des fillettes qui ne vont pas à l'école, nous, journalistes, en danger, nous, femmes, en danger. Le fait aussi de... En fait, on est obligé de mettre le voile en Mauritanie. Le voile, moi, je l'enlève si je voyage. Je voyageais beaucoup parce que j'avais également ma société de communication, mais je travaillais seulement avec les ambassades. Aucun ministère, aucune société mauritanienne ne voulait travailler avec moi. Donc, parce que le gouvernement ne voulait pas. Donc, j'ai été renvoyée de la télévision mauritanienne à cause de ça, parce que j'ai, comme je vous l'ai dit tantôt, parce que j'ai approché le leader anti-esclavagiste, parce que je faisais des directs sur des lives sur Facebook pour dénoncer tout ce qui se passait. On allait à l'intérieur du pays avec des amis, avec des présidentes d'associations mauritaniennes, mais qui avaient peur, en fait. Parce qu'elle ne voulait pas se mouiller à 100%. Seulement le fait d'avoir le titre présidente d'association, ça suffisait pour pouvoir voyager, pour pouvoir assister à des séminaires à l'extérieur de la Mauritanie. Mais on essayait d'empêcher l'excision, on essayait d'empêcher des ventes, hein. Parce que des fillettes étaient vendues pour être esclaves, des garçons aussi, des petits garçons. Donc, quand on est esclave, c'est fini, c'est à vie. Hein. On va te vendre, tes enfants, demain, on va les vendre. Donc, voilà, on essayait d'empêcher tout cela, mais à moi seule, une dizaine de personnes, une quinzaine, vingt, ça ne suffit pas. J'ai besoin d'idées, en fait. Là, je veux partir, je vais partir, mais j'ai besoin d'idées, j'ai besoin d'armes pour pouvoir agir. Mais seul contre 4 millions de personnes, comment je vais faire ? Voilà, surtout d'idées pour pouvoir agir, en fait.
En fait, en arrivant ici, parce que, comme on dit, jeunesse un jour, jeunesse pour toujours. Il y a la passion, on a envie de continuer le métier, mais parfois il y a une certaine réalité qui vous rattrape. Les gosses que vous avez laissés en Afrique, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de l'argent pour le loyer, ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin des babouches. Et là, tu te dis, mais est-ce que je vais faire de bénévolat dans un média quelque part sans être rémunéré, ou bien je vais chercher du travail pour envoyer de l'argent en Afrique? C'est ça la réalité, en fait, mais bien sûr, ça, c'est, je peux dire que c'est à court terme, le moment, en attendant qu'ils nous rejoignent ici, on est obligé de chercher des boulots ici et là qui n'ont rien à voir avec notre passion, avec notre métier qu'on a fait depuis notre insertion professionnelle. Et donc, pour mon cas, j'ai eu les papiers il y a quelques mois, bientôt ma famille va me rejoindre, ils ont eu les visas. Et me rejoignent à la fin de ce mois. Donc, je me dis que quand ils seront ici, je vais recommencer à réfléchir à mes projets personnels à long terme. Voilà. Et Engage, bien sûr, est là. Ils nous soutiennent, ils nous donnent des idées et ils nous proposent certains projets qui sont en cours de réalisation, qui sont de construction. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, ce qui concerne le problème dans notre pays, le Burundi, c'est un petit pays, insignifiant, au regard de tout ce qui est géostratégie, tout ça. Bon, on a le nickel, mais apparemment, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Alors, ce qui fait que, quand le monde commence à négliger certaines situations politiques, dans les années 90, ils ont négligé le problème rwandais. Ça aboutit à ce que vous connaissez, vous tous, en 1994, avec le génocide des Tutsis qui a emporté 1 million de personnes. Le pays qui est à côté, le pays frère, parce que nous avons un peu beaucoup de similitudes. Quand un Rwandais parle dans sa langue, moi je le comprends, moi le Burundais, quand je parle dans ma langue nationale, le Rwandais me comprend. Nous avons les mêmes ethnies, les Hutus, les Tois et les Tutsis, et les mêmes problèmes ethniques, sauf qu'au Rwanda, ils ont essayé, ils font tout pour essayer de minimiser la question ethnique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le régime en place, il attise la haine ethnique. Pourquoi? Pour récupérer les voix de la majorité, les voix des Hutus, pour récupérer leur sympathie. Donc chaque fois qu'il y a une voix discordante, ils disent, écoutez, c'est les gars-là, vous les connaissez. Hein. Nous, les Burundais, on comprend ce que c'est. Dans les discours officiels, si vous écoutez ça, quand vous êtes étranger, vous ne saurez jamais qu'ils sont en train de diviser les Burundais, parce que nous avons un certain code, un certain langage que nous comprenons, nous. Les médias indépendants en exil, ils font tout pour déconstruire ce discours de la haine, mais sans le soutien du monde, de l'ONU et de la communauté internationale, pour résumer, je ne crois pas que ça va donner grand-chose. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en train de compter les jours, parce que la catastrophe va arriver, doit arriver, si le monde continue à fermer les yeux, parce que le Burundi, c'est un petit pays de 27 000 km², insignifiant au niveau géostratégique, tout ça. Et ça va provoquer une catastrophe similaire à celle de 1994 au Rwanda. Là, soyez sûr que ça va arriver, ça continue comme ça. Et ce qui nous fait mal, c'est que la communauté internationale ne fait pas grand-chose pour pouvoir y remédier ou pour pouvoir contrecarrer tout ce discours de la haine, ce régime qui est en train de diviser les Burundais. Il ne reste qu'une petite étincelle pour que ça explose, comme ça a été le cas au Rwanda, mais aussi chez nous, parce que ce ne sera pas le premier ni le deuxième génocide. Nous avons encore un problème entre nous sur la compréhension de notre histoire contemporaine. Les Hutus vous diront, les Tutsis ont toujours commis des génocides contre nous. Les Tutsis diront la même chose. Nous n'entendons pas sur notre histoire, c'est ça le problème. Et quand vous n'entendez pas sur votre histoire, vous comprenez que ça ne présage rien de bon. Voilà, c'est ce que je peux dire. Sinon, ce qu'on attend de vous tous, vous, nos collègues, nos consoeurs et confrères, c'est que vous puissiez porter peut-être notre voix plus loin et faire connaître au monde entier la poudrière qui est le Burundi, parce que s'il y a une guerre civile au Burundi, elle va embraser toute la sous-région. C'est comme ça, il y a des Tutsis partout, il y a des Hutus partout, que ce soit au Rwanda, au Congo, en Tanzanie, au Burundi. Ce sont les pays qui sont limitrophes, qui sont voisins. Et ça va affecter toute la sous-région. Et vous savez ce qui se passe quand il y a des guerres civiles. Vous savez le Congo, ce qui s'est passé au Rwanda, ça a affecté toute la région. Et ça va exploser encore une fois. Alors que la communauté internationale, les Nations Unies, à commencer par les Nations Unies, étaient au courant, avaient été avertis, et qu'il y avait autant de signes annonciateurs, mais qu'ils ont fermé les yeux, peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans notre pays. Voilà. Bon. Nous aimerions que vous contribuiez à porter notre voix plus loin et à soutenir ces médias en exil, parce qu'ils font un travail, un bon, superbe travail. Les journalistes qui sont au Burundi, ils sont obligés un peu de faire face, quand même de se protéger. Ils font du bon boulot, mais quand même, quand on vous dit, parlez de tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas de la violation des droits de l'homme, ne parlez pas des actes criminels commis par la milice Imbonerakure, la milice du parti au pouvoir, ou bien les violations des droits de l'homme commis par les renseignements, vous ne dites rien. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un pays qui est fermé sur lui-même. Il n'y a plus de journalistes de France 24 ou de la RTBF ou de qui peut aller là-bas. Ceux qui sont allés là-bas, ils sont allés là-bas incognito. Ils ont fait leur travail. Mais vous comprenez que si vous le faites une fois et que vous diffusez ça, ils seront regardants la prochaine fois. Il n'y aura pas d'autres surprises. Et maintenant, ils n'accordent plus de visa pour des journalistes qui travaillent pour les grands médias. La BBC a été suspendue. La Voix de l'Amérique, la Radio Voix de l'Amérique, les émissions aussi ont été suspendues. Et ils n'ont plus le droit d'émettre sur le territoire national. Ils n'ont plus, et leurs correspondants n'ont plus le droit de faire leur travail. Et vous comprenez que quand ça commence à produire de tels effets sur le public qui devrait être informé de tout ce qui se passe et qui n'a rien comme information sur ce qui se passe au pays. Ça veut dire que le régime va tout faire pour continuer à massacrer son peuple. au vu aussi de tout le monde, mais comme il n'y a personne pour relater cela, pour parler de cela, vous comprenez que ça n'augure rien de bon. Voilà, on aimerait bien que vous puissiez nous soutenir, nous, les journalistes burundais en exil, à travers notre travail, bien sûr, aussi, pour que vous puissiez vous intéresser et intéresser vos publics à la situation au Burundi. Merci.
Pour pouvoir vous informer peut-être sur le Burundi, je vous invite à lire Iwachu, qui est un média indépendant en ligne qui est rédigé par des Burundais au Burundi, qui se cachent. Et quatre d'entre eux sont encore en prison, d'ailleurs. Ils n'ont pas été libérés. Hein.
Un qui est porté disparu. Hein.
Et un qui est porté disparu, ouais, depuis 2016. Ouais, 2018, je ne sais plus. Donc je vous invite à lire Iwachu en ligne, c'est Iwachu.
My question was
how can all the people who are here can come to support you and help you as a journalist, as a Palestinian, as a refugee? What should we all do to help you?
Okay. Well, thank you. To begin with, is thank you for just the idea of thinking to help a refugee, to help a woman, to help a journalist. This deserves a big thank you from all and from me. Well, to welcome journalists, women, refugees here in Belgium and help them integrate in the society. And in the field of journalism, I know it's not easy, but it's possible. And personally, I believe it begins with individuals. Like, if any journalist here who would generously give some time while he's working to welcome me to a company, while he's making a documentary, while he's writing an essay, while he's going live on air or making a stand-up. This is a great experience, a great network for me, a great way to practice the little French I speak. And also, if the organizations or associations can help in all the journalists to get more training, more workshops. For me, I'm looking for a master's, okay? And if they can help in that, if they can form like a small community of journalists, even on Zoom, that we can share our experiences and information and how can we support each other. Even concerning the COVID, you never know. Even journalists, you might come up with a great story in depth. You might end up with a good documentary. Like, thoughts fly. And we just need to have doors open to resources of experience, information. And all of that, of course, hoping that one day I'm going to be working as a journalist here in Belgium. Not necessarily Brussels, anywhere. I don't care. I just want to hold my mic, stand in front of my camera, address to Le Monde. I hope. So there are so many ways you can help me. Okay? Start by opening your hearts to us. And I'm sure I'll find my way. Thank you.
En fait, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le journalisme. Si je mets aujourd'hui à vous raconter ma vie, j'ai été brève. Hein, donc, ouais, j'ai été vraiment brève. Je suis hyper, hyper fatiguée, mais j'ai un parcours de ouf. Hein, donc, non. Bizarrement, j'ai parlé en 5 minutes, hein. J'ai expédié vite fait. Non, mais quand on travaille avec des personnes âgées, toute la journée, c'est pas facile du tout. Donc voilà, j'ai fait des reportages, hein. Vous pouvez taper Fatimeto Sordena sur Google, vous trouverez tout. J'ai fait des reportages sur l'excision, sur le gavage, sur l'esclavage. Et quand j'ai été arrêtée, il y a eu vraiment un tapage médiatique. Donc, mais le problème, c'est que la Mauritanie, en fait, possède l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. On a du pétrole, on a du fer. Donc, la communauté internationale, c'est ses intérêts qu'elle protège, ni plus ni moins. Ça fait des années qu'on se bat pour qu'on vote une loi qui protège les femmes, les fillettes, mais jusqu'à présent, rien, rien. On viole, on tue chaque jour en Mauritanie, chaque jour. Il y a un viol, il y a un meurtre. On ne peut rien. On arrête l'auteur du viol, l'auteur du meurtre, 2 mois, 3 mois en prison, et il est dehors. Hein. Il y a son cousin qui est ministre, son parent qui est président du Sénat, il est dehors en quelques mois. Qu'est-ce que je peux faire? Acheter une arme? Tuer chaque meurtrier? Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'Amnesty International bouge. Il faut que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut... Je ne sais pas. Peut-être que le jour où je mourrai... je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaie... voilà. Beaucoup de questions, beaucoup... J'ai pris du recul pour mieux sauter, mais je ne sais pas comment faire, en fait. Parce qu'il y a ce... Mon travail de journaliste, il y a aussi mon travail, disons, de maman. Je protège mes filles d'un côté, et ce n'est pas seulement elles. C'est vrai que c'est elle la priorité, mais il y a des milliers de filles derrière, de fillettes derrière. Il y a des milliers de jeunes garçons, c'est pas seulement les fillettes, de jeunes garçons qui se font violer chaque jour en Mauritanie. Qu'est-ce que je sais pas.
Et puis, pour répondre aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, ce n'est pas des gens qui sortent de l'école et qui ont besoin de se faire une petite expérience et se faire connaître. On parle de journalistes professionnels. Faire un documentaire, on a besoin de ressources financières. Ils l'ont dit, les deux, ils ont une famille à nourrir. Ils ont une famille à nourrir, donc ils ont besoin de moyens de vie. Mais en plus... Ils ont des années d'activité professionnelle. Il y a un moment où il y en a marre d'être bénévole. Ils ont tous les journalistes que moi j'ai rencontrés en exil, tous, ils sont passionnés, ils sont accrochés, et ils ont continué, et ils continuent encore d'écrire, de produire, que ce soit sur Internet, que ce soit avec des collègues sur place, ou à essayer de développer des collaborations. Sauf que c'est jamais payé, et qu'au bout d'un moment, ça... Je suis désolée, quand on a 15 ans d'expertise en historique professionnelle, on n'a pas 23 ans, on ne sort pas d'un master, et on a un peu marre d'être bénévole. Un travail, c'est un travail. Et un travail, tout travail, mérite un salaire. Donc c'est pour ça que c'est aussi des questions qui sont compliquées. Et c'est pour ça que les journalistes en exil, ils ont besoin d'une vraie reconnaissance. Déjà, ils ont besoin d'une reconnaissance, oui, vous êtes journaliste. Mais en plus, ils sont partis... de chez eux, de leur pays, parce qu'ils étaient journalistes, et ils arrivent ici, eh ben non.
Vous n'êtes rien.
Vous n'êtes rien. Et c'est pas le cas de toutes les professions. Ce segment-là, des journalistes, partent de chez eux à cause de ce métier-là. Ce métier qui même, ils l'ont commencé quand ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient passionnés. Parce que tous, ils ont grandi dans des pays qui ont été instables à un moment ou à un autre. Dès lors qu'ils ont décidé de choisir cette carrière-là, ils savaient qu'il y avait des risques. Ils ont pris les risques parce qu'ils sont passionnés. Ils sont partis parce qu'ils ont bien fait leur job et ils n'ont pas eu le choix. Ils arrivent ici et ils ne peuvent pas être journalistes.
C'est qu'il y a la main de la communauté internationale derrière. C'est simple.
Oula, il y aurait plein de raisons. Le marché de travail est aussi bouché. Il y a une compétitivité. Moi, je t'enverrai dans mon mémoire aussi.
Je suis prête à faire un stage. Quelque part dans une radio, dans une télé, ça, il n'y a aucun problème. Mais ce qui fait mal, avec 15 ans, 20 ans d'expérience, on envoie un CV. Là, aujourd'hui, je reçois un mail. Désolé, on ne peut pas vous prendre. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Dans le cadre de ma recherche, l'un des arguments des employeurs dans le secteur médiatique en Belgique, c'est Oui, mais l'accent.
Bah ouais.
Alors, moi, je vous assure que quand j'entends Valérie parler, quand j'entends Fatima tout parler et que je ferme les yeux, je n'arrive pas du tout à identifier d'où vous venez. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses dans les écoles de journalisme, vous, en tant que jeune journaliste, auxquelles vous pouvez essayer de réfléchir. Quels sont les arguments donnés pour empêcher l'intégration professionnelle de personnes avec une expertise? Ça, c'est des choses que nous aussi, on pourrait combattre. Parce que ça, c'est un faux argument, ça. Ça, ça s'appelle cache-cache. C'est de la lâcheté. C'est un faux argument.
Voilà. Juste pour te compléter, Claire, pour qu'en fait, on puisse comprendre pourquoi il nous est difficile de faire du bénévolat aujourd'hui. Par exemple, pour mon cas, je suis journaliste depuis 2003. Nous avons fui le pays, moi et mon épouse, en 2015. Je vous ai dit qu'on a créé une radio et que pendant une année, on n'avait rien comme ressources financières pour vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons rapatrié, nous avons récupéré nos fonds de pension qu'on avait laissés au Burundi. C'est ce qui nous a fait vivre juste quelques mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai presque 20 ans de carrière. Je n'ai pas de compte en banque. Pas de fonds de pension, rien, rien. Donc je suis un bébé, quoi, un bébé qui naît, qui n'a pas de compte, qui n'a rien, qui n'a pas encore travaillé. Et je postule. Ici, on me dit, écoutez, il y a une place pour le bénévolat, mais monsieur, bénévolat, ça veut dire quoi? Si c'est un test et que vous me dites que si j'arrive à vous prouver que je vaux quelque chose, vous allez me prendre, d'accord, je vais tenter ma chance. Mais si c'est pour faire du bénévolat, bénévolat, par exemple, Christa, ma consoeur, Christa de Liège, c'est notre jeunesse burundaise en exil. Elle vit à Liège et il y a une radio locale qui lui a dit, écoutez, on te fait une antenne d'une heure. Tu vas meubler comme tu veux. Tu vas la meubler, tu ne sais pas comment, ce que tu vas faire. Elle m'a proposé, elle m'a dit, Valérie, est-ce que tu peux travailler avec moi? J'ai une antenne d'une heure que je peux meubler comme je veux. N'importe quel sujet, est-ce que tu peux venir travailler avec moi? J'ai dit, mais si ce n'est pas payant, c'est impossible. Parce que les gosses qui sont en Afrique, ils doivent manger. Je ne vais pas faire du bénévolat alors que les enfants ont besoin de l'argent pour aller à l'école, pour payer le loyer. Donc c'est cette réalité qui nous rattrape et qui fait qu'on se dit, mais ouais, j'ai la passion, j'aime ça, j'adore le métier, j'adore le journalisme, mais si j'étais seul, je pourrais peut-être tenter ma chance une année à faire du bénévolat pour voir si quelqu'un pourra me récupérer. Sinon, c'est ça la réalité de la vie. Donc, on doit faire avec.
Oui, et puis c'est vrai que dans tous les profils rencontrés, chacun, il y a des inégalités. Il y a des profils, effectivement, quand on vient ici, qu'on a 25 ans, 30 ans, qu'on est seul, c'est pas la même situation. Je ne dis pas que c'est plus facile ou plus difficile. Mais c'est pas la même chose que s'il y a une famille au pays ou s'il y a une famille ici. Ou voilà, il y a pas de règle générale. C'est chacun fait un peu comme il peut, comme tout le monde.
Ben, moi, je suis prête à faire du bénévolat parce que je suis contre les hommes en fait dans tout ce qu'ils disent. Je suis contre. Donc, je suis prête à faire du bénévolat. Pas de souci, démissionner de mon travail d'animatrice et faire du bénévolat. Voilà. Parce que le journalisme, c'est un métier que j'aime. Je l'ai choisi pour, d'un côté, être connue en Mauritanie, pour que je puisse faire ce travail de sensibilisation, pour qu'on puisse m'écouter. Et voilà. Je suis prête à travailler gratuitement.
Donc, vous parlez souvent de vos familles ou des personnes. Vous parlez de vos familles ou des personnes qui sont restées là-bas. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez vous subissez de manière indirecte des pressions? Parce que de ça, on n'en parle pas, mais je suppose qu'il y en a beaucoup, souvent. Enfin...
Moi, quand je suis venue ici, mon mari a été arrêté. Donc là, il est sous liberté provisoire. Donc on voulait mettre la pression pour que je rentre, pour que je ramène Sarah. Là, il ne peut pas quitter la Mauritanie, malgré le fait que j'ai demandé à ce qu'il vienne, demander un visa pour lui. Mais même si aujourd'hui la Belgique lui accorde ce visa, il ne pourra pas venir. Il n'a pas de passeport, ni de carte d'identité, rien. Voilà. Et tout ça pour qu'on me mette la pression, pour que je rentre.
I wish I can answer your question, but talking in this subject would endanger my family even more. So you will have to forgive me.
Vous étiez à Liès le jeudi 8 octobre 2020 et les intervenants étaient Fatimetou Sow, journaliste de la télévision mauritanienne, ancienne militante anti-esclavagiste et des violences imposées aux enfants et aux femmes, Omé Maker, journaliste à TV Palestine, correspondante pour l'agence Ramatan et Al Jazeera, active dans la défense des droits des femmes. Valérie Moucho, journaliste burundais, présentateur de journal télévisé. Le débat a été animé par Claire Chevrier, cofondatrice de l'association Engage.